À part que de l'emmerder en pleine thèse avec ma jalousie. Quel idiot prétentieux. Je faisais le coq. Alors que j'aurais dû m'occuper d'elle, être au petit soin. Et éviter de monter sur ces grands chevaux beethoveniens dont j'ai remarqué avec le temps qu'ils ne me rendent pas extraordinairement populaire auprès des femmes. Peut-être, au fond, ce qui m'énervait tant avec ce titre, quand je pense que Beethoven est mort alors que tant d'imbéciles sont en vie, c'est que son propriétaire avait trouvé le moyen de se rendre drôle et sympathique en parlant de Beethoven. Ce que des générations de musicologues, la mienne comprise, ont cherché à faire en vain. Joseph von Hammer-Purgstall, l'orientaliste, toujours lui, raconte qu'il fréquentait Beethoven à Vienne, par l'intermédiaire du docteur Glossé. Quel monde tout de même que ces capitales au début du XIXe siècle, où les orientalistes fréquentaient les princes, les Balzac et les musiciens de génie. Ces mémoires contiennent même une anecdote terrifiante pour l'année 1815. Hammer assiste à un concert de Beethoven dans un de ses extraordinaires salons viennois. On imagine facilement les cabriolets, les laquais, les centaines de bougies, les lustres aux perles de verre. Il fait froid. C'est l'hiver. L'hiver du congrès de Vienne, et on a chauffé le plus possible chez la comtesse Thérèse Apponi qui reçoit. Elle a à peine 30 ans. Elle ne sait pas que quelques années plus tard, elle charmera le tout Paris. Antoine et Thérèse Apponi seront les hôtes dans leur ambassade du Faubourg Saint-Germain, de tout ce que la capitale française compte d'écrivains, d'artistes et de musiciens importants. Le noble couple autrichien sera l'ami de Chopin, de Liszt, de la scandaleuse George Sand. Ils recevront Balzac, Hugo, Lamartine et tous les trublions de 1830. Mais ce soir d'hiver, c'est Beethoven qu'elle reçoit. Beethoven, qui n'est pas sorti dans le monde depuis des mois. Comme les grands fauves, c'est sans doute la faim qui le tire de sa triste tanière. Il a besoin d'argent, d'amour et d'argent. Il donne donc un concert pour cette comtesse Apponi et le cercle immense de ses amis, dont Hammer. L'orientaliste diplomate est bien en cours au moment de ce congrès de Vienne où il s'est rapproché de Metternich. Il a fréquenté Talleyrand, dont on ne sait s'il s'agit d'un furet pervers ou d'un faucon altier. Une bête de proie dans tous les cas. L'Europe, faites la paix, l'équilibre retrouvé dans le jeu des puissances, et surtout la fin de Napoléon, qui trépigne à l'île d'Elbe. Les 100 jours passeront tel un frisson de peur dans le dos d'un Anglais. Napoléon Bonaparte est l'inventeur de l'orientalisme. C'est lui qui entraîne derrière son armée la science en Égypte et fait entrer l'Europe pour la première fois en Orient au-delà des Balkans. Le savoir s'engouffre derrière les militaires et les marchands en Égypte, en Inde, en Chine. Les textes traduits de l'arabe et du persan commencent à envahir l'Europe. Goethe, le grand chêne, a lancé la course. Bien avant les orientales d'Hugo, au moment même où Chateaubriand invente la littérature de voyage avec l'itinéraire de Paris à Jérusalem, alors que Beethoven joue ce soir-là pour la petite comtesse italienne mariée à un Hongrois devant les plus beaux habits de Vienne, l'immense Goethe met la dernière main à son veste slicher divan. Directement inspiré de la traduction de Hafez qu'a publié Hammer-Purgstall en 1812. Hammer est là, bien sûr. On lui prend son manteau. Il se penche pour faire semblant d'effleurer des lèvres le gant de Thérèse Apponi, en souriant. Car il la connaît très bien. Son mari est aussi un diplomate du cercle de Metternich. Alors que ce dragon de Napoléon, cet horrible méditerranéen pensait pouvoir affronter les Russes et leur terrifiant hiver, à 3000 lieues de la France. Ce soir-là, pendant que Napoléon tape du pied en attendant les bateaux à Elbe, il y a Beethoven, et il y a le vieux Hafez, et Goethe,